BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
À vos côtés, on est ravis de vous retrouver pour aller tirer les leçons de cette nouvelle séance sur les marchés financiers. C'est BFM Bourse en mode concentré, là, jusqu'à 18h. On concentre l'essentiel de la séance en à peine une demi-heure dans nos formats estivaux, jusqu'à la fin de la semaine, et vous retrouverez nos formats habituels, bien sûr, dès la semaine prochaine, pour la grande rentrée de BFM Business. Le CAC 40, à quelques instants de la clôture, est très très mitigé aujourd'hui. Il est stable, hein, notre CAC, après 6 baisses d'affilée. On n'est pas à l'abri d'une 7e baisse d'affilée. On est à plus 0,02% là sur le CAC. C'est très timoré. Pour en parler, ils sont là, nos experts. Olivier Droyère pour Montpensier Bevel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Franck Morel, le président de Zone Bourse, aussi nous accompagne. Bonsoir Franck. Et Gilles Santacreux, depuis ses bureaux de boursicoté.com. Ravi aussi de vous retrouver. Gilles, bienvenue les amis. Le CAC 40 donc stable à l'instant. Alors on parlera des grandes valeurs du jour. Il y en a une qui se distingue aux États-Unis. On en parlera dans un instant, c'est Moderna. On peut démarrer là-dessus, allez quand même, parce que c'est fort et c'est gros ce qui se passe du côté de Moderna. En plus, c'est un sujet que vous suivez de très près, Olivier, secteur de la santé. Le titre Moderna, Wall Street gagne en ce moment. Vous êtes bien accroché là, Olivier. 150%.
Oui, bon, alors la hausse est un peu excessive, hein, bon, très clairement. Maintenant, c'est quand même un message d'espoir, un message positif. C'est la première fois qu'il y a un vaccin qui finalement, un vaccin anti-cancer, qui va jusqu'au bout de la phase 3, de la fin du développement clinique. Donc ça, c'est un message qui est très positif.
En phase 3, voilà. Le vaccin a fait ses preuves.
Alors il faut comprendre, un vaccin, c'est pas un vaccin comme on l'entend dans le grand public, hein, c'est-à-dire que c'est pas un vaccin qui va vous empêcher d'avoir un cancer. Hein. C'est un vaccin thérapeutique. On appelle ça vaccin parce qu'il s'adapte aux mutations génétiques précises de l'individu. Et de la tumeur, et donc c'est vraiment un pas vers la médecine personnalisée dans le cancer, c'est ça qui est porteur de beaucoup d'espoir. Après, là où c'est quand même un peu excessif, c'est qu'en réalité, les résultats sont positifs. On nous dit que l'étude est positive, statistiquement, mais on n'a pas les chiffres. Donc c'est quand même un peu embêtant. On n'a pas encore les chiffres, surtout que le mélanome, c'est quand même un domaine en termes de cancer qui ne se traite pas si mal que ça.
Cancer de la peau.
Voilà, il y a quand même 75%, heureusement, de survie à 5 ans. Les immunothérapies sont quand même assez efficaces. Alors, bon, là, c'est en combinaison, mais il y a aussi d'autres alternatives. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de traitements. C'est un domaine, entre guillemets, facile. Simplement, donc c'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup de rachats de shorts, beaucoup de positionnement. Maintenant, là où c'est positif, c'est que ça ouvre la voie à d'autres potentiels développements de ce type. Moderna travaille sur d'autres sujets, c'est pas les seuls. Et ça met en avant quand même ce secteur de la santé où les pharma finalement avaient plutôt bien fait en jouant un rôle défensif, ou avaient plutôt bien fait en tout cas depuis la fin du printemps. Mais il y a tout le reste. Alors les biotech ont pas si mal marché que ça, mais quand même il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations qui se passent dans les biotech. Les pharma ont besoin de remplacer leur pipeline de produits. Et puis, il y a toutes les sociétés de services, les sociétés de diagnostic et autres, qui sont assez à la traîne, finalement. Et là, ça remet en avant toute l'innovation dans le secteur de la santé. Et ça, c'est très positif.
Ce titre Moderna, donc, Franck, je disais, gagne 150%, ça va vite. Non, il gagne 125% seulement. 125% de hausse. Franck Morel est avec nous, puis Zone Bourse. On a aussi Merck, parce que Merck est associé à ce vaccin.
Exactement.
Merck gagne plus 10%.
Surtout qu'en fait, Merck en fait, compte là-dessus pour préserver son médicament vedette, le Keytruda, qui est en combinaison. Et donc, c'est ça que le marché salue sur Merck.
Bon, quel regard vous portez là-dessus, secteur de la santé, quand même, dont on entend beaucoup parler, qu'il fait partie des grands secteurs d'avenir, bien sûr, avec l'IA aussi, qui va venir apporter une touche, augmenter, on va dire, le potentiel de ce secteur de la santé. Puis là, Moderna, qui nous annonce en phase 3 un succès sur le cancer de la peau. Franck.
Ouais, on connaissait Moderna pour le vaccin anti-Covid. Donc, en fait, le marché avait en tête que potentiellement Moderna savait faire que ça. Et donc là, aujourd'hui, elle valide finalement sa capacité technologique et sa capacité à créer un vaccin anti-cancer, mais qui peut du coup être déployé dans plein d'autres pour plein d'autres cancers que ce que le mélanome. Donc le potentiel est évidemment très important. Sur la partie mélanome pure, on estime le marché à 2,5 milliards, donc c'est plus que ce que prend aujourd'hui en capitalisation la société suite à Moderna, suite à cette annonce. Donc clairement, en fait, ce que price le marché, c'est la capacité de Moderna à sortir d'autres vaccins du même type pour d'autres cancers. Donc le potentiel est très important. Après, évidemment, la progression du titre est telle que c'est compliqué de se projeter et de donner une valorisation tellement on est dans le futur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Moderna a amorcé une reprise et ne vaudra plus ce qu'elle valait avant cette annonce, puisqu'elle va complètement changer de dimension. Elle est capable de faire autre chose qu'un vaccin contre le Covid, autre chose qu'un vaccin contre une maladie virale.
Plus 124% ce titre Moderna aujourd'hui à Wall Street qui anime la cote. On suit aussi alors les valeurs de la grande distribution, du bricolage, de la consommation, Lowe's, Target, qui sont en hausse hein, aujourd'hui, ainsi que Estée Lauder. On en parlera ensemble, Franck, dans un instant. Pour rester juste sur le secteur de la santé, il se trouve que pour la suite, là, pour la rentrée, pour la fin de l'année, c'est l'un de vos secteurs, voire votre secteur préféré.
Oui, c'est clairement un de nos secteurs préférés chez Montpensier Harbevel. En tout cas, c'est le secteur défensif à côté de tout ce trend IA qui reste quand même évidemment le leader du marché, IA, électrification, dérivés, etc., qui fait le marché quand même globalement. Mais c'est un des secteurs qui permet quand même d'apporter une décorrélation. Et c'est un des secteurs défensifs qui est quand même pas trop fondamentalement challengé. Parce qu'évidemment, la consommation, on voit qu'en ce moment, il y a quand même toujours des soucis sur le pouvoir d'achat. Donc, il y a des niches intéressantes. Mais c'est quand même plus difficile de jouer ça très largement. Et donc, c'est vrai que quand on cherche de la diversification, bah, nous, c'est le secteur sur lequel on trouve qu'il y a encore des valorisations qui sont effectivement très attractives. Et notamment sur beaucoup de sociétés de services qui fabriquent tous ces produits. Toutes les sociétés Moderna ont besoin de sociétés pour fabriquer ces produits. Donc, il y a beaucoup de potentiel au-delà de Moderna.
Dans un instant, Franck, vous nous direz vous aussi quelle valeur présente le plus de potentiel là, pour cette rentrée ou quel secteur. Juste après, ah ça y est, on dirait que la clôture sous nos yeux, on est en train de la vivre. Il est un peu plus de 17h35, ça y est, nos marchés européens ont clôturé cette nouvelle séance. Aïe, par une nouvelle baisse, oui, septième baisse d'affilée finalement pour le CAC 40. Il était en hausse une bonne partie de la séance après six baisses d'affilée et finalement on perd 0,1% ce soir en clôture sur le CAC. Alors attendez, cette baisse d'affilée, ça nous ramène au mois de janvier. Au mois de janvier, le CAC 40 aussi avait subi sept baisses d'affilée. On verra si on aura une huitième demain, quand ça remontera. Du coup, une série de huit baisses. En tout cas, là, on a une nouvelle baisse très légère. Les valeurs qui ont le plus souffert aujourd'hui, alors le secteur bancaire qui vient de cartonner hein, depuis quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, Société Générale repart à la baisse, moins 3,8%. BNP Paribas, Crédit Agricole aussi perd 2,5%. On demandera à nos experts dans un instant le potentiel de ce secteur bancaire après la baisse du jour. Le secteur tech aussi recule avec la hausse des taux obligataires hein, tous ces derniers jours qui commencent à peser sur le segment tech. On voit STM qui recule ce soir à nouveau de 3%. Le titre avait perdu déjà hier 7%. Et puis à la hausse quand même, Stellantis qui sort d'une phase difficile en bourse aujourd'hui, 5% de hausse. On a aussi Renault dans le secteur automobile en hausse de 2%. Et puis Capgemini qui récupère 2,8%. On retrouve Gilles Santacreux pour boursicoté.com. Bonsoir Gilles. Septième Bonsoir. Baisse d'affilée, mine de rien, sur le CAC. C'est la pire série donc depuis le mois de janvier.
Oui, mais avec des volumes qui restent encore légèrement inférieurs à la moyenne. Donc effectivement, on est dans une continuité de mouvement. On aurait pu penser que les annonces du Trésor hein, américain qui sont intervenues dans l'après-midi auraient pu un petit peu retourner le marché. Alors il y a des effets sur d'autres secteurs, mais pas trop sur les indices. Donc on reste dans une phase de baisse. Ça s'est joué à peu de choses hein, puisque on était positif avant le fixing et puis on clôture quasiment sur. Enfin oui, on est sur le plus bas du jour. La zone des 8560 points que l'on observait depuis hier, elle a été confirmée comme résistance. Donc là désormais, on a un objectif de poursuite en direction des 8450 points. C'est un signal technique, donc on a neutralisé la dynamique à laquelle nous avions assisté donc depuis la fin du mois de juillet. Ce n'est pas encore trop catastrophique, on n'est pas sur un signal de retournement majeur, on manque encore de conviction, mais c'est un mouvement à surveiller. On pourrait attendre, en tout cas d'après les statistiques que je produis via des algos d'observation, une accalmie dans cette phase de consolidation qui pourrait être suivie statistiquement par un rebond à partir de la semaine prochaine.
À suivre donc pour l'instant, donc 6 baisses d'affilée pour notre indice, 7 baisses d'affilée avec celle du jour, 7 baisses d'affilée pour notre indice CAC 40. Franck, dans un instant, vous nous livrerez votre chouchou là pour la rentrée, votre valeur préférée avec vos équipes chez Zone Bourse. Juste avant, Olivier, ce qui fait pression sur le marché, on l'a bien compris depuis quelques jours, c'est la hausse des taux obligataires, de fortes tensions obligataires. Alors aujourd'hui, le Trésor américain, et Gilles en parlait, a réagi. Il annonce, le Trésor américain, qu'il va au moins doubler la taille de ses rachats d'obligations sur les maturités 10-30 ans, obligations américaines. Donc, histoire de soulager un peu ce segment, ça n'a pas suffi aujourd'hui. Les taux obligataires ne se sont toujours pas véritablement détendus.
Bah, on a quand même une petite détente. Alors, je n'ai pas regardé au juste avant de venir, millimètre. Mais par rapport au plus haut, il y a quelques jours, on a quand même perdu plus ou moins 10 points de base sur le 10 ans américain. On était repassé de 4,74 à 4,64 tout à l'heure. Donc, il y a une légère stabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, on a quand même des probabilités de baisse des taux courts finalement de la Fed qui ont beaucoup reflué au cours du dernier mois avec des chiffres économiques qui ont été un peu décevants aux États-Unis, notamment du côté du consommateur. Donc on a une probabilité qui était à peu près des deux tiers et qui est passée maintenant autour de 30%. Mais pour autant, les taux longs, jusqu'à il y a 2-3 jours, avaient continué à monter. Et donc ça, c'était quand même un signal un peu préoccupant. Alors on aura les minutes de la Fed ce soir et on va voir un peu quelle sera la réaction du marché par rapport à ça. Bon, sachant qu'effectivement, les minutes de la Fed datent d'une période où on n'avait pas eu ces statistiques américaines plutôt un peu décevantes qui ont peut-être quand même refroidi certains membres.
Mais est-ce que, alors qu'au premier semestre, les taux déjà se tendaient, hein, mais les actions ont résisté, elles ont battu de nouveau plus haut sur plein d'indices. Est-ce que cette fois, une poursuite à la hausse des taux obligataires serait négative pour les actions à partir de la rentrée là? Bah, c'est maintenant même, ça a peut-être déjà commencé d'ailleurs.
Bah, c'est un peu ce qui a calmé les marchés actions depuis quelques jours. Bon, on sait que le 5% est un vrai signal d'alarme sur le 10 ans américain. C'est-à-dire que là, pour le coup, si on arrive là, je pense que d'abord il y aurait des réactions politiques, des réactions monétaires aux États-Unis. On voit d'ailleurs qu'on n'y est pas et on a cette réaction du Trésor. Je pense que même la Fed, sans faire de QE, nous sortirait des petites opérations de rachat, de repo, etc. On ne fait pas de QE, mais on rachète quand même. Et on aurait sûrement aussi des réactions de Donald Trump, certainement plus complaisant vis-à-vis de l'Iran, puisque une des raisons qui alimente la hausse des taux, c'est quand même l'inflation, et donc c'est le pétrole, le rebond du pétrole depuis 3 semaines aussi. Donc, on aurait certainement des réactions. Ce seuil de 5%, c'est clairement un seuil de douleur et il ne faut pas y aller.
Franck, même la tech désormais est éclaboussée par les hausses de taux. On a vu hier le Nasdaq pas mal souffrir. Et alors, Alphabet, Franck, a bouclé sa première émission en dollars australiens avec un coupon élevé, le plus élevé de l'histoire d'Alphabet. Jamais Alphabet n'avait émis de la dette à des taux aussi élevés, de quasiment 7% à horizon 20 ans. Là aussi, est-ce que c'est un signal pour la suite sur les acteurs tech? Et est-ce que, quelque part, quand on est investisseur, on ne va pas de plus en plus vouloir privilégier les obligations, les acteurs de la tech qui rapportent de plus en plus plutôt que les actions?
Effectivement, on pourrait tout à fait se poser la question, d'autant qu'on aurait peut-être une meilleure diversification à la fin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Alphabet et toutes les plus grosses tech américaines ont complètement changé de profil financier en l'espace de 18 mois. C'était des montagnes de cash qu'elles avaient, et donc là, elles s'en servent activement dans des proportions très importantes. Donc entre ce qu'elles investissent les montants des investissements qu'elles réalisent actuellement font que leur bilan, leur situation financière change complètement. Donc on prête pas non plus au même taux à des sociétés qui sont riches à des sociétés qui sont en train d'investir. C'est pas le même risque pour le prêteur. Et donc c'est aussi ce qu'on observe aujourd'hui. Puis vous avez des taux sans risque a priori avec les États qui approchent les 5%. Donc tout ça explique ces nouveaux niveaux de prêts, enfin de taux.
Et Alphabet, donc, qui s'endette à des taux jamais vus, quasiment 7% à horizon 20 ans, même si la société va bien, etc. 7% à 20 ans, Olivier. Attendez, on allume votre micro pour que vous puissiez parler de façon très audible par nos auditeurs et téléspectateurs. Petite souche.
Oui, c'est quand même une petite souche pour Alphabet par rapport à l'ensemble de ce qu'il est.
Oui, c'est à peine 3 milliards d'euros qui ont été émis.
C'est pas considérable.
Mais il y a un signal quand même.
Oui, il y a un signal, mais d'autant plus qu'en fait...
Parce que des petites souches, il y en avait déjà eu avant, pas à des taux aussi élevés.
En fait, les techs, finalement, font monter les taux souverains aussi par les effets d'éviction, puisque finalement, à la limite, vous dites finalement, est-ce que prêter à Alphabet, finalement, c'est pas mieux que de prêter à un État endetté? On voit qu'en France, même certaines belles signatures empruntent moins cher que l'État français. Et donc, effectivement, vous dites, si on peut emprunter à 5, 6, 7% à des boîtes de tech, parce que c'est vrai qu'elles commencent à s'endetter et que le profil change. Enfin, à part Oracle qui est très endetté, les autres, Alphabet ou Amazon, elles ont un peu de dette, mais sans plus. Et quand même, globalement, cette année, on est sur des free cash flow qui vont être autour de zéro, mais ils sont pas en train de creuser une dette considérable non plus. Donc ils gardent quand même une situation bilancielle. L'enjeu pour eux, c'est d'être capable de démontrer qu'ils sont capables d'avoir des retours sur investissement. Et sur les trimestriels, certaines comme effectivement Amazon ou Alphabet l'ont fait. D'autres comme Meta, il y a encore des questions qui se posent. Donc c'est là où le tri se fait. Mais l'enjeu de la situation, leur situation bilancielle reste quand même extrêmement solide malgré tout.
Oui, mais il n'empêche, quand on voit Alphabet, qui fait partie des bons élèves dans la tech malgré tout, Alphabet emprunté à 20 ans sur 7%, certes sur une petite souche.
Attends, c'est 20 ans, c'est long aussi quand même.
7%. Ouais, mais 20 ça ans, n'aurait été jamais. Oui, mais c'est Alphabet.
Dans la tech, il y a 20 ans, OpenAI, ça n'existait pas. Claude, Anthropique, on va le valoriser 2000 milliards, ça n'existait pas il y a 7-8 ans.
Vous êtes investisseur dans la tech, quand vous voyez des rendements quand même de 7% à 20 ans, vous dites quoi? Je préfère investir dans les obligations des acteurs de la tech, désormais plutôt dans les actions ou toujours les actions?
Quand même pas, parce que, en fait, C'est vrai que malgré tout, la croissance à peu près moyen terme, hein, du consensus des analyses d'Alphabet, c'est quand même 20%, avec un peu de levier opérationnel. Donc le multiple n'est pas non plus stratosphérique. Donc si tout va bien et qu'on simplement conserve le même multiple, évidemment il y a plein plus d'aléas dans les actions, mais malgré tout, si on conserve le même multiple, on a quand même une espérance de rendement qui peut être supérieure.
Les taux, leurs impacts, l'impact des hausses de taux aussi sur le secteur bancaire. Franck, les banques françaises, alors depuis 3 mois, cartonnent, hein, vraiment. On en parlait déjà hier, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, chacune gagne plus de 20% depuis 3 mois. Puis aujourd'hui, badaboum, une petite baisse de 3% pour Société Générale, de 2,5% pour BNP et Crédit Agricole. Cette petite baisse aujourd'hui, est-ce que c'est un point d'entrée? Est-ce que le secteur bancaire pour vous garde beaucoup de potentiel ou on arrive au bout, d'autant que la BCE doit relever ses taux au mois de septembre avec peut-être un impact sur nos banques? Comment est-ce que vous regardez ce secteur dans le contexte de taux qu'on est en train de décrire, là, Franck?
Le secteur bancaire, en ce moment, on est obligé d'en avoir. Ça fait partie des secteurs les moins bien valorisés. Vous avez la plupart des plus grosses banques européennes vers 5% de rendement. Mais surtout, vous avez des révisions de bénéfices qui sont orientées à la hausse depuis 18 mois. Si vous analysez l'ensemble des sociétés en Europe, 50% des sociétés européennes qui révisent à la hausse sont des sociétés issues du secteur bancaire. Donc, on est obligé d'être exposé au secteur bancaire. Autant privilégier soit les plus grosses capitalisations comme HSBC, soit s'intéresser plus particulièrement aux bancaires du Sud, les bancaires italiennes ou les bancaires espagnoles, qui présentent, à notre avis, un potentiel plus important que les bancaires françaises, avec potentiellement aussi un risque moindre.
Oui, mais il y a du rendement quand même sur les bancaires françaises. On n'est pas obligé de bouder le rendement, il y a du dividende, Franck.
On a à peu près les mêmes rendements, vous avez à peu près les mêmes rendements.
D'accord. Olivier, sur le potentiel... Combien, 5%? 5 ou 7, Franck?
Ouais, vous avez 5% de rendement, 5% de rendement sur les plus grosses bancaires européennes actuellement, ce qui est très important.
Faut continuer d'acheter les banques ou ça y est, elles ont fait leur chemin? Olivier.
Alors, à moyen terme, ça reste très solide, la dynamique bénéficiaire est excellente. La seule chose, peut-être tactiquement, peut-être petite note de prudence quand même sur le fait qu'effectivement, on va voir ce qui sort de la Fed. Mais si la Fed devait être un peu au quiche, avec un Kevin Warsh que pour l'instant on ne connaît pas encore.
Donc un peu dur.
Totalement, un peu dur. En fait, paradoxalement, ça pourrait permettre de contrôler les taux longs, puisque effectivement, on pourrait se dire la Fed, finalement, est là, elle est sur le pont et elle combat l'inflation. Donc, on pourrait avoir quand même une baisse de la pente de la courbe des taux. Et la pente de la courbe des taux, pour le secteur bancaire, c'est quand même un élément très important. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, les banques baissent un peu, c'est que dans l'attente de ce que va dire la Fed, certains disent peut-être, attention, ça a quand même beaucoup, beaucoup monté. C'est mieux que la tech américaine, hein, depuis 2022, les banques. Les banques européennes, ça a été fantastique, avec une amélioration des rentabilités des banques absolument stratosphérique. Enfin, certaines banques d'Europe du Sud avaient des rentabilités des fonds propres de 4-5% dans les périodes jusqu'à 2020-2021 et aujourd'hui sont capables de passer à 15-20%. Donc il faut se rendre compte du changement. Alors on l'a déjà eu historiquement il y a longtemps, hein, mais il y a eu quand même une très très forte amélioration de la profitabilité du secteur bancaire qui a soutenu justement ce rallye. Voilà. Tactiquement, un peu de prudence, mais ça reste incontournable dans les portefeuilles.
Et vous disiez, c'est mieux que la tech. On peut prendre l'exemple d'UniCredit. Là, sur les 3-4 dernières années, UniCredit en performance boursière, c'est mieux qu'Nvidia.
Oui, alors, je vais pas regarder chaque banque, mais c'est pas étonnant. Oui.
Ouais. Gilles, d'un point de vue technique et graphique, laquelle garde le plus de potentiel? C'est vous.
Alors sur le long terme, je donnerais un petit avantage à BNP Paribas qui est d'une régularité à toute épreuve. On est dans une configuration technique qui, malgré la phase de consolidation que nous observons depuis quelques jours, eh bien revient chercher une zone de résistance à 107 euros. Une ancienne zone de résistance qui pourrait se transformer en support. Certainement que les minutes de la Fed provoqueront ce mouvement. Et puis, je voulais mettre en lumière aussi une configuration technique assez particulière que nous avons sur Crédit Agricole, qui a ouvert un joli gap haussier. C'était exactement le 31 juillet. Ce gap haussier, il a une limite haute à 19,15. Là, on clôture juste au-dessus, on est venu tester cette zone. C'est une configuration technique intéressante, assez haussière. Sur la dynamique court terme, on a un mouvement assez puissant. Donc c'est à surveiller, car si ce gap n'est pas comblé, eh bien on pourrait avoir une reprise assez forte.
Ce soir, le CAC clôture en repli, on vous le rappelle, cette clôture qu'on a vécue en direct il y a quelques instants, on perd 0,09%, c'est pas grand-chose, mais mine de rien, moins 0,09, c'est une septième baisse d'affilée, pire série pour le CAC depuis janvier. Alors on partait de niveaux très élevés, hein, on rappelle, on a vécu jusqu'ici un très bon mois d'août, mais depuis quelques séances, c'est un peu plus mitigé. Et à Wall Street, à Franck, à Wall Street, ça se passe pas mal aujourd'hui. Avant les minutes de la Fed ce soir, le S&P 500 gagne 0,5%, sans doute porté, Franck, par ses publications des acteurs de la consommation, dans le bricolage notamment. On a Lowe's qui certes abaisse ses prévisions, mais qui est en hausse quand même. Target qui de son côté relève ses prévisions annuelles. Estée Lauder aussi salue après ses résultats. Estée Lauder, Lowe's et Target, toutes les trois sont en progression ce soir. Quelles leçons vous tirez de leurs publications ?
Vous avez un des signes de fermeté de la consommation américaine. Vous avez aussi des grosses rotations sectorielles. Vous avez aujourd'hui toutes les valeurs minières qui explosent pour la bonne et simple raison que le dollar baisse. Vous avez la tech qui corrige. Mais attention, dans la tech maintenant, on va dire qu'il y a deux sortes de tech. Vous avez la tech IA, puis vous avez la tech logicielle. La tech logicielle comme ServiceNow par exemple, sur laquelle on est d'ailleurs investi dans le portefeuille dans notre portefeuille US, qui peut bientôt être considéré comme du value, qui lui est en forte hausse. Donc en fait, vous avez des mouvements qui sont très importants et aujourd'hui vous avez vraiment des rotations qui sont extrêmes. Et donc moi je vous prenais l'exemple de la tech à l'instant, du logiciel et de l'IA, c'est presque deux secteurs qui désormais s'opposent. Vous avez bientôt un bêta négatif, c'est-à-dire que quand l'IA monte ou quand le marché monte, le logiciel baisse et inversement. Donc c'est pas forcément représentatif cette hausse aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on observe, c'est une forte baisse du dollar sur la séance, avec l'euro-dollar notamment qui franchit un niveau important, aussi suite à
l'action du Trésor américain qui annonce vouloir racheter les obligations américaines deux fois plus qu'annoncé jusqu'ici.
Donc tout ça a aussi un impact très important. Et puis vous avez tous les secteurs value, plus faiblement valorisés, qui attirent à nouveau, pour la bonne et simple raison que les secteurs les plus fortement valorisés sont extrêmement valorisés et que vous commencez à avoir des prises de bénéfices sur ce secteur-là pour des réallocations.
Oui, et on a vu pendant la phase de publication des entreprises au cœur de l'été un élargissement des performances. D'abord parce que plein de secteurs ont annoncé de beaux résultats d'entreprises. Il n'y a pas que la tech, il n'y a pas que l'énergie. Ça a été une belle saison et on a un élargissement des performances. D'ailleurs, l'été, Olivier, le S&P 500 équipondéré fait mieux que le S&P. Oui. Et l'Europe tient la dragée haute à Wall Street depuis le début de l'été aussi.
Oui, et puis il y a eu cette rupture aussi dans les semi-conducteurs qui était quand même jusqu'au mois de juin la superstar du marché. Et finalement, on a eu quand même pas mal d'équipementiers semi sur l'été là qui ont perdu 40-50%. Le mois de juillet a été quand même... Alors ASML a un peu mieux tenu parce que c'est le gros acteur du secteur, mais malgré des publications qui ont été globalement extrêmement solides dans ce secteur, il y a eu des très fortes baisses. Alors c'est quand même essentiellement, enfin ça montre quand même le fait qu'il faut quand même toujours garder un peu d'équilibre dans les portefeuilles et garder quelques optionnalités qui permettent de passer ces périodes parce que voilà, il y a eu aucune déception fondamentale, les prix des mémoires sont restés extrêmement élevés, mais il y avait un positionnement excessif, 4 fois supérieur à la normale du levier financier, et donc ça a débouché sur des corrections assez sévères.
On a une question d'un auditeur sur Vusion. On va essayer de répondre à Jean qui nous a écrit sur le titre Vusion, que suivent les particuliers. Il y a aussi, bon, c'est un secteur que vous aimez bien, Olivier, dans les boissons, Carlsberg, qui a publié moins 5,5%. Carlsberg, le brasseur danois, qui pourtant relaie son objectif de croissance organique, moins 5%.
Ouais, alors c'est vrai que moi, je suis pas d'extrêmement près, mais ce que j'ai quand même noté, c'est qu'effectivement, ils relevaient un peu dans le haut de fourchette, mais que les attentes des analystes étaient déjà positionnées à ce niveau-là. Aïe. Ce qui semblerait quand même, c'est quand même l'Asie qui est le relais de croissance, enfin, vraiment le driver de croissance forte structurelle de Carlsberg, le reste un peu plus cyclique, et les volumes en fait en Asie ont déçu. C'était un peu compensé par l'effet mix prix, mais du coup le marché quand même trouve que c'est quand même un peu inquiétant pour la suite.
Ouais, le secteur des boissons non alcoolisées cartonne, nous dit Carlsberg. Ouais, les boissons non alcoolisées, les bières non alcoolisées, mais pas au point de compenser la faiblesse des bières.
Oui, alors celui qui est le plus exposé aux non alcoolisées, c'est Royal Unibrew, ce qui ne l'a pas empêché de bien souffrir sur sa publication de l'autre jour. Mais c'est vrai que oui, on voit quand même une évolution du mix vers les boissons non alcoolisées.
Ouais. Franck, même question, Carlsberg, vaut mieux l'avoir en portefeuille ou dans le frigo?
Écoutez, vous pouvez mettre dans le frigo. Nous, on n'en a pas dans nos portefeuilles. En tout cas, en fait, c'est un alcoolier. Hein, donc, historiquement, c'est un vendeur de bière qui est en train de se diversifier vers le soft drink, donc les sodas. Ils ont fait une grosse acquisition qui représente une grosse acquisition Britvic pour que les Les boissons non alcoolisées représentent désormais 30% de leur chiffre d'affaires. Donc cette part non alcoolisée sur laquelle ils se redirigent représente à une progression de 9%, alors que vous avez un ralentissement, voire une décroissance sur la commercialisation d'alcool et donc de bière, ce qui est un peu le cas de tous les secteurs. Ce secteur historiquement hyper contre-cyclique et donc devient un secteur mature, voire en déclin. Et donc ils sont en train de se réorienter, ils n'ont pas le choix vers les sodas. Mais tant que le pivot n'est pas fait, nous on n'est pas intéressés par ce type de société.
Carlsberg donc à moins 5,5 ce soir à la bourse de Copenhague. Et donc cette valeur que suit beaucoup de particuliers, Jean, un de nos auditeurs, nous a écrit par mail. Pourriez-vous trouver un intervenant qui explique clairement la situation sur Vision? Tout semble positif pour ces entreprises. Cette entreprise Vision maintient ses objectifs malgré le mur Walmart à venir. Et pourtant le titre est à la peine en bourse. Je ne comprends pas, nous dit cet auditeur. Olivier.
Alors à la peine, bon, il a quand même repris 30% depuis le point bas. C'est vrai que sur l'année, c'est pas terrible. Mais quand même, si on est un peu opportuniste, il y a quand même eu des points d'entrée qui ont été salués. Les nouvelles ont été plutôt quand même assez correctes sur les derniers mois. Le deuxième trimestre, c'était quand même intéressant puisqu'il y avait quand même une reprise des prises de commandes. C'est ça qu'on va surveiller par rapport à ce mur Walmart. Mais c'est un mur 2027, c'est pas tellement un mur 2026. Donc c'est logique, cette année, ça impacte pas trop. Mais voilà, ils mènent leur stratégie. Ils ont quand même fait une acquisition aussi InStore Media qui leur permet de... Enfin, toute la stratégie de Vision, en fait, c'est de capitaliser sur l'énorme base installée qu'ils ont pour essayer de proposer des services en magasin, services dont la profitabilité est quand même meilleure que les étiquettes pures. Bon, maintenant, donc voilà. Donc, il y avait des points d'entrée intéressants. Il y a un CMD, une journée d'investisseurs au mois de novembre. Donc, on est sur une dynamique qui devrait continuer à être plutôt positive depuis le rebond. Après, il faut pas rêver peut-être sur retrouver les plus hauts parce que il y a quand même, enfin, ce mur Walmart, les 7 distributeurs américains qui sont derrière Walmart, c'est le même volume que Walmart. Donc, ils pourront pas quand même complètement compenser tout ça. Mais pour autant, ça reste une société très bien gérée, belle petite société de tech française.
Oui.
Et
champion, quand même.
Et voilà, il y avait, sur les points bas, il y avait des excès et ils sont en train de corriger.
Franck, Vision, d'un mot pour rassurer ou au contraire alerter cet auditeur qui lui dit: je comprends pas, le titre reste manifestement plombé en bourse alors qu'ils maintiennent tous leurs objectifs. Pourquoi? C'est Jean qui nous a écrit. Est-ce que vous avez une réponse pour Jean?
Vision Group, c'est la société préférée des vendeurs à découvert. Donc je pense que le marché n'a pas totalement confiance. Et par ailleurs, vous avez eu encore une nouvelle preuve de cette situation récemment avec Bloomberg qui a sorti une rumeur comme quoi la société aimerait pourquoi pas se vendre. Il n'y a pas eu d'impact sur les cours. Donc nous, on est à l'écart de ce titre.
Gilles, techniquement, il faut rester à l'écart aussi d'un point de vue graphique sur Vision, même s'il a récupéré, si depuis ses plus bas, un peu plus de 30%.
Oui, mais enfin, ce qu'il a récupéré, c'est rien par rapport à ce qu'il a perdu. Vision, c'est quand même un titre qui, au mois de juin de l'année dernière, était au-delà des 275 euros. Certes, on est venu toucher une zone de point bas à 100 euros. Là, on est à 130. Mais en fait, depuis le début de l'année, on est dans un range grossièrement entre 100 et 150 euros. Et on n'a pas trop bougé depuis le début du mois de janvier. Donc, en termes de configuration technique et d'analyse technique, eh bien, on est sur quelque chose qui est très neutre d'un point de vue court terme. On voit que l'on est tout de même dans une dynamique plutôt baissière d'un point de vue moyen terme, donc c'est pas très rassurant pour la suite.
Merci beaucoup à nos trois experts, Olivier de Royer qui était sur le pont à nos côtés, Montpensier Bevel, merci Olivier d'être venu jusqu'à nous.
Merci.
Un grand salut amical à Franck Morel, le président de Zone Bourse, qui va pouvoir repartir se baigner dans le lac qu'on aperçoit derrière lui. Pour ceux qui nous suivent en télé, ça vaut toujours le coup et ça nous fait toujours du bien de voir les équipes Zone Bourse avec ce paysage magnifique derrière eux. Bonne soirée Franck, bonne baignade. Et Gilles Santacreux pour boursicoté.com. Le CAC ce soir recule pour la 7e séance d'affilée, moins 0,09%. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.